Théologie biblique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 21 mars 85.
Nous allons continuer cette lecture de l'Exode. Vous voyez bien tous ces détails, c'est extraordinairement intéressant pour essayer de comprendre ce que c'est que la prudence politique d'une communauté religieuse, et qui reste une communauté religieuse. Et c'est Dieu directement, si je prends le texte, c'est Dieu directement qui intervient, donc qui va permettre à l'homme de comprendre ce que représentent les exigences d'une communauté religieuse. Et Dieu architecte, Dieu qui va nous donner ici aussi l'exigence d'habit. La théologie de l'habit commence avec l'Exode. Ne l'oublions pas. L'habit est lié à l'attitude religieuse. Et dans la mesure où on perd le sens religieux, on perd le sens de l'habit. Alors ici, c'est un habit clérical, mais c'est un habit. Ça revient au même. Hein, parce que le peuple d'Israël est un peuple religieux ayant à sa tête des prêtres. La distinction se fera ensuite progressivement entre l'attitude religieuse purement consacrée à Dieu et puis l'aspect sacerdotal. Alors, c'est intéressant de voir ça, de voir que l'habit n'est pas du tout lié à une philosophie. Aristote ne parle pas, ne fait pas la philosophie de l'habit. Cherchez bien, au point de vue politique. Non. On mettra ensuite des habits, oui, c'est évident, les magistrats auront des habits, les professeurs d'université se revêtiront d'habits quand le contenu n'est plus assez fort. Alors à ce moment-là, on mettra le point de vue de l'habit, c'est évident, pour manifester qu'ils sont bien ça. Mais l'habit est avant tout religieux. Et c'est, je crois, ça qui est important pour nous de comprendre. L'habit est avant tout religieux. L'habit est lié à la consécration à Dieu. C'est ça qu'il est avant tout religieux. Il relève de la vertu de religion. Et relevant de la vertu de religion, il faut manifester que, de fait, il y a comme une consécration à Dieu qui fait qu'on est séparé des autres. C'est toujours le côté désagréable de l'habit. L'habit vous sépare en premier lieu. On fait tomber la tunique de peau qui nous unit aux animaux pour revêtir un habit qui vient d'en haut et qui est du ciel et qui nous sépare. L'attitude de consécration religieuse, ça nous sépare. Mais cette séparation est en vue d'une plus profonde communion. C'est ça qu'il faut toujours comprendre. L'attitude religieuse implique une séparation. On est rattaché à Dieu. Mais si on est rattaché à Dieu et séparé des hommes, on est en même temps uni plus profondément aux autres par l'attitude, justement, de l'union avec Dieu. Alors, il faut essayer de saisir ce que représente ce point de vue des habits d'Aaron et des prêtres, chapitre 28 de l'Exode. C'est intéressant de voir cela, surtout pour nous, aujourd'hui. On est devant une telle laïcisation, il faut bien reconnaître, hein, on est devant une telle laïcisation qu'on a beaucoup de peine à comprendre ce que c'est que l'habit. La laïcisation consiste justement à regarder l'homme uniquement dans son aspect de domination de l'univers et de considérer l'homme uniquement par son travail. Tout aspect religieux, c'est de redécouvrir la finalité de l'homme. Une finalité qui n'est plus de cette terre et qui est de l'au-delà. Et c'est parce que justement l'attitude religieuse consiste à considérer que l'homme n'est pas uniquement pour cette terre, mais pour l'île et l'au-delà, qu'il y a nécessairement une certaine séparation dans toute consécration. On est séparé d'une attitude profane pour une attitude divine. Alors voyez la grande équivoque de notre monde d'aujourd'hui, parce qu'il faut le saisir ça. C'est de dire l'aspect chrétien supprime l'aspect religieux. Il y a une double équivoque souvent dans ce point de vue-là, vous voyez ? C'est que l'aspect théologal, c'est vrai, l'aspect chrétien est avant tout un aspect théologal. Nous sommes avant tout des contemplatifs, plus que des religieux. L'aspect contemplation repose sur l'exercice des vertus théologales. Les vertus théologales réclament une attitude contemplative. L'attitude contemplative n'implique pas d'habit. On est nu en face de Dieu. C'est la nudité du contemplatif, c'est la pauvreté du contemplatif. Et le contemplatif comme tel, hein, il faut bien le comprendre, comme tel, les vertus théologales sont premièrement intérieures et elles impliquent, elles réclament une contemplation. La contemplation n'est pas liée du tout à un habit. Ne cherchez pas, enfin, c'est comme toujours, il faut trouver le fondement, la raison. Si vous avez une fausse raison, ça ne va pas du tout. Il faut dire que les vertus théologales sont un au-delà et un aspect transcendant. Par les vertus théologales, on est enfant de Dieu. On est fils de Dieu. Et si on est fils de Dieu, ben oui, on est déjà du ciel. On est fils de Dieu et on est fait pour la contemplation. Et c'est une consécration intérieure des vertus théologales. Par l'aspect de l'incarnation, les vertus théologales sont liées au Christ et nous devenons membres visibles du Christ. L'Église n'est pas une Église purement intérieure, c'est une Église incarnée. Il ne faut pas l'oublier. L'Église purement intérieure, vous voyez la tentation, je dis bien la tentation de la réforme. L'Église trop temporelle réclame une réaction d'une Église invisible. C'est salutaire. L'Église était trop liée à l'aspect temporel. On regardait trop les mérites, d'où réaction violente d'une Église intérieure et d'une Église qui ne regarde plus du tout le point de vue des mérites. En faisant cela, Luther oublie que nous sommes membres du Christ. Et nous sommes membres du Christ en ce sens que la grâce ne détruit pas la nature. La grâce assume la nature. Et donc, en tant que membre du Christ, la contemplation va assumer la vertu de religion. Et par la contemplation assumant la vertu religieuse, l'habit va revenir, puisque nous nous plaçons de ce côté-là. Vous voyez bien, l'habit est monastique. Il n'est pas premièrement contemplatif. Il est monastique. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'il est monastique ? C'est tout simplement l'incarnation des vertus théologales. Comment se fait cette incarnation des vertus théologales ? L'incarnation des vertus théologales se fait par la vertu de religion. Des adorateurs en esprit et en vérité. Il n'y a plus de lieu. Pour Israël, c'était le temple. Pour les Samaritains, c'était les hauts lieux. Et Jésus dépasse. Oui, au milieu d'une querelle liturgique, Jésus montre le dépassement. Et quand Jésus dit des adorateurs en esprit et en vérité, Jésus ne veut pas dire du tout qu'il n'y a plus de culte. Mais c'est que le culte n'est pas lié à un lieu. Le culte va pouvoir prendre des dimensions très diverses. On ne dit pas seulement la messe à Rome ou à Jérusalem. On ne dit pas seulement la messe dans les hauts lieux. L'adoration est une adoration en esprit et en vérité. Partout où l'homme se trouve, l'adoration en esprit et en vérité doit se trouver. Et l'Eucharistie doit se trouver. L'homme est la route de l'Église. Vous voyez, c'est l'incarnation, cela, qui montre que la vertu de religion, assumée par la grâce théologale de foi, d'espérance et d'amour, la vertu de religion va prendre une nouvelle dimension. Et donc, nous allons redécouvrir, à l'intérieur de la vie chrétienne, une exigence de l'habit monastique, qui est tout simplement l'incarnation de la foi à travers la vertu de religion. Alors il faut bien saisir ici, il faut très fort saisir ici, le double obstacle qu'on met à ce point de vue-là, où vous avez l'attitude protestante, réformée, la foi suffit à tout, d'où suppression de l'habit religieux. Les protestants ont supprimé l'habit religieux, ça c'est sûr. Ils retrouvent maintenant. On le voit bien. Mais au point de départ, c'est très net. Toute la vie religieuse est supprimée, parce que la foi suffit. Alors quand on dit que la foi suffit, ça peut se comprendre de deux manières. La foi suffit parce qu'elle est le levain qui transforme la pâte, ou la foi suffit parce qu'elle est séparée de tout. Le levain qui assume la pâte, le levain n'est pas séparé de la pâte. Il est présent dans la pâte. Mais je peux aussi considérer, c'est l'autre aspect qui n'est pas juste, le levain est séparé de la pâte. Et pour pouvoir être parfaitement chrétien, il faut se séparer de toute manifestation. Donc, à ce moment-là, on ne voit plus comment la foi s'incarne à travers la vertu de religion. Et on veut la foi seule. C'est exactement la même chose par rapport aux œuvres. La foi suffit, pas d'œuvres. Saint Jacques nous dit qu'une foi morte, c'est une foi qui n'a pas de fécondité, qui n'a pas d'œuvres. Vous voyez ? Alors là, on voit encore l'incarnation de l'amour. Et l'incarnation de l'amour implique des œuvres et des œuvres de miséricorde. Et ça, c'est l'incarnation de l'amour. Tandis que si vous ne voyez pas l'incarnation de l'amour, vous séparez. Alors, une autre objection, je les souligne parce que c'est les objections qu'on retrouve aujourd'hui. Et il faut pouvoir répondre, non pas du tout pour se justifier, mais pour comprendre. Pourquoi portons-nous l'habit ? C'est pas pour le plaisir de se singulariser, c'est pour manifester la grâce chrétienne incarnée. C'est ça, c'est le réalisme poussé jusqu'au bout de la grâce chrétienne. Et ce réalisme de la grâce chrétienne implique que la foi assume la vertu de religion. Et c'est la vertu de religion qui réclame l'habit. Ce n'est pas la foi. Mais c'est la vertu de religion. C'est la foi chrétienne qui assume la vertu de religion. Et par la vertu de religion, l'habit est intégré. Vous n'avez qu'à réfléchir sur les petites résistances qu'on peut avoir par rapport à l'habit. les vôtres et celles de vos voisins. Parce qu'on a tous connu des gens qui résistaient à la vie. Je comprends très bien, du reste, et c'est du reste l'intérêt d'aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de comprendre le pourquoi. Tandis qu'avant, j'avoue, quand j'ai pris la vie, je n'ai pas réfléchi sur le pourquoi. Je l'ai fait en fonction de traditions qui ne posaient pas de problème. Donc on entre très bien, puis on entre dedans. Je ne me suis jamais demandé pourquoi on prenait saint Thomas. Jamais. Tandis qu'aujourd'hui, on dit pourquoi. Vous voyez ? Je ne me suis jamais demandé pourquoi, de fait, il y avait telle ou telle chose. Non, on suivait. Bon. Il y a une rupture dans la tradition. Ça, c'est vrai. L'aspect protestant met une rupture dans la tradition. L'aspect moderne met une rupture dans la tradition. Alors, cette rupture, elle peut être mauvaise, elle peut être bonne. Dieu l'a permis pour un plus grand bien. Et donc, c'est pour que nous réfléchissions davantage sur certains aspects qui étaient donnés comme tout à fait habituels, et on doit essayer de comprendre le pourquoi. Parce que les traditions religieuses charrient des quantités de choses qui ne sont pas religieuses. Hein ? Manger de la main gauche plutôt que de la main droite, manger avec dans de la vaisselle de bois plutôt que de la vaisselle jaune, est-ce que c'est religieux ? Possible ! C'est possible que l'incarnation est jusque-là. C'est le bois qui est plus immédiatement religieux que la terre. C'est le bois qui est plus immédiatement religieux que l'aluminium. C'est le bois qui est plus immédiatement religieux que la matière synthétique. C'est évident, plus l'homme trafique, plus on est loin du religieux. Et le bois a quelque chose de particulièrement religieux parce qu'il est lié à la croix. Alors c'est très curieux. Alors je veux bien, vous voyez, je veux bien, c'est que nous n'aurons plus dorénavant qu'une vaisselle de bois. Ça, l'inconvénient, c'est que ça coûte cher. C'était l'autre vaisselle, on peut plus facilement... Mais on comprend très bien ces choses-là. Et selon les traditions religieuses très poussées, ça va jusque-là. Mais je suis persuadé que quelqu'un ne réfléchit pas du tout. À partir de maintenant, je ne mangerai plus du bois. Pourquoi ? Ah, c'est plus religieux, le bois. Pourquoi c'est plus religieux ? Ah, c'est lié à la croix. C'est curieux. On arrive des raisons, vous savez, si on cherchait. Parce qu'on trouverait des choses intéressantes de voir qu'il y a des choses qui sont plus ou moins religieuses. Et ça, on doit le redécouvrir. Vous voyez, on est en face d'une brisure de tradition. C'est la même chose pour le chant liturgique. Il y a des chants liturgiques qui sont plus ou moins religieux. On est en face d'une brisure. Avant, très bien, on entrait dedans. Et on ne voyait pas. Aujourd'hui, on est obligé. Donc, l'Esprit Saint nous demande d'être plus intelligent. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout d'être plus intelligent. Tandis qu'avant, on était dans des ornières. Il y en avait d'excellentes. Alors, on est sorti des ornières uniquement pour sortir des ornières. Hein. Ça a été la première réaction. La première réaction, c'était ça. Sortir des ornières. Alors, on se met dedans, on se met en dehors. Attention, dans les ornières, il y avait quelque chose de bon. Avant que ce soit des ornières, c'était bon. Alors ça s'est usé au bout d'un certain temps et c'est devenu des ornières. Mais au point de départ, ce n'était pas des ornières. C'était un sentier qui nous conduisait vers quelque chose de plus sûr. Alors ce sentier est devenu des ornières parce que tout le monde est passé dessus. Il y a eu des gros pieds d'hippopotame qui en ont fait des ornières, n'est-ce pas ? Mais nous, alors nous essayons de quitter pour redécouvrir le chemin droit. Les voies déterminées du Saint-Esprit. Et nous devons élaguer les choses qui sont de la boue, qui ne signifient rien du tout, qui sont propres à telle tradition à tel moment. Et puis redécouvrir la tradition profonde. Vous voyez ? Les petits jaillissements, les petites sources des traditions et les sources profondes de la tradition. Ce qu'il y a de plus authentique dans la tradition. C'est ça qu'on doit faire. On doit essayer de réfléchir de cette manière-là. Et c'est pour ça que c'est bon de revenir à la révélation, puisque c'est la révélation qui nous éclaire en définitive. C'est elle qui nous donne la lumière. Alors l'autre opposition aujourd'hui, parce que je l'ai lu dans certains articles, toutes ces choses-là sont des choses très actuelles, et de temps en temps, on doit lire ces articles pour comprendre un peu les oppositions qui se font. Alors j'ai lu entre autres par rapport à l'opposition vis-à-vis de la Bible, en disant la distinction du profane et du sacré est une distinction grecque. C'est vrai que toute tradition religieuse, qu'elle soit grecque ou qu'elle soit de l'Inde, or, vous savez, quand vous discutez une distinction, quand vous êtes en opposition vis-à-vis du grec, passez à l'Inde. Alors à ce moment-là, tout le monde est d'accord. On ne s'oppose jamais à une tradition qui vient de l'Inde. Mais on s'oppose à toutes les traditions grecques. C'est très curieux, ça. Ça fait partie de certains a priori. Alors il suffit de glisser. Vous savez, la distinction entre l'âme et le corps, on dit c'est grec. Mais non, ça vient de l'Inde. Alors dès que vous dites ça, plus personne ne s'oppose. Et ce qui est de mieux, c'est que c'est vrai, hein. C'est que la distinction de l'âme et du corps n'est pas grecque du tout. Quelqu'un comme Breyer, qui est un bon historien de la philosophie grecque, le dit textuellement. J'ai dit ça, c'est parce que nous touchons à quelque chose. Hein. La vie, c'est le corps. Il ne faut pas l'oublier. La vie, c'est le corps. Hein. Ce n'est pas l'âme. L'âme n'a pas besoin d'habits. Hein. Tous les vieux, toutes les vieilleries, nous les laisserons sur la terre pour notre âme s'emparer, qui n'aura plus besoin, il n'y aura pas de prise d'habit de l'âme quand nous entrerons dans le ciel, n'est-ce pas ? Nous aurons alors, je ne sais pas, une espèce de vêtement glorieux, extraordinaire. Non, non, c'est sur la terre, ça. C'est pour la petite chrysalide qui a besoin d'un habit, n'est-ce pas ? Mais au fond, autrement, il n'y en a plus. C'est donc le conditionnement de la terre, c'est le conditionnement de la terre. C'est pour ça que ce n'est pas un absolu, l'habit. Si c'est devenu un absolu, c'est très mauvais, vous comprenez plus ce que c'est. C'est un conditionnement, mais un conditionnement qui est important quand même, qui joue son rôle. Alors, on dit que la distinction du profane, donc la distinction de l'âme et du corps, Breyer dit textuellement, à propos des stoïciens. Breyer dit, les Grecs, à partir des stoïciens, sont revenus dans leur première tradition, qui fait pas de distinction entre l'âme et le corps. La distinction de l'âme et du corps est venue de l'Inde et Platon l'a introduite en philosophie. Mais c'est une distinction religieuse. Toutes les traditions religieuses distinguent l'âme et du corps. Et le philosophe doit se demander si cette distinction de l'âme et du corps est une distinction mythique ou réelle. Et c'est le propre de la philosophie. Et le mérite des Grecs, c'est d'avoir montré que cette distinction de l'âme et du corps était réelle, philosophique, et qu'elle n'était pas mythique. Et les Grecs ont essayé de voir si cette distinction de l'âme et du corps, de l'âme immortelle, parce qu'il n'y a pas de tradition religieuse sans l'âme immortelle, est-ce que l'âme immortelle, est-ce que philosophiquement je peux l'affirmer ? Vous voyez ? Alors, on dit que la distinction du profane et du consacré est une distinction grecque. Quand on dit ça, il faut toujours regarder très près. C'est vrai que les traditions religieuses grecques font la distinction entre le profane et le sacré. Mais je dirais toutes les traditions religieuses. La vache sacrée et le chien profane. C'est vrai, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. C'est très curieux de voir pourquoi certains animaux sont sacrés. En Égypte, c'est le crocodile. Il est sacré. Parce qu'il est silencieux. Si vous êtes silencieux, vous êtes sacré. Tandis que si vous criez, vous n'êtes pas du tout. Le cri n'est pas sacré. Il est terriblement humain. Parce que le silence est sacré. C'est très curieux, ça. C'est très intéressant, du roi, de voir la distinction du sacré et du profane. Dans toutes les études de tradition religieuse, regardez les deux, entre les deux, c'est une distinction religieuse, le sacré et le profane. Et vous la retrouvez dans la Bible. Et la Bible est là pour distinguer le sacré et le profane. Pour distinguer les deux. Celui qui est totalement consacré à Dieu, donc il est sacré, parce qu'il est totalement consacré. Donc il est sacré en union avec Dieu. Il est totalement, et l'habit exprime que ce n'est pas seulement l'âme qui est sacrée, mais le corps aussi. C'est donc pour nous, au point de vue chrétien, l'aspect de l'habit religieux, de montrer que le corps est consacré à Dieu comme le temple du Saint-Esprit. Et que nous sommes appelés à la résurrection des corps. L'habit est donc une anticipation de la résurrection. C'est une anticipation de la résurrection pour un monde qui ne croit plus au sacré. Pour un monde qui ne voit plus que l'aspect matériel. Alors c'est cet aspect-là particulier qui est important pour nous à comprendre dans notre monde. Et c'est pour ça que le Saint-Père revient sur l'habit et qui demande que le prêtre ait au moins une distinction. Et les religieux doivent porter l'habit. Vous voyez, au moment où les prêtres ont abandonné la soutane, on peut très bien comprendre la soutane, c'est pas un habit religieux la soutane. Hein. Et la soutane en France, vous savez très bien à quel moment elle est arrivée, n'est-ce pas ? La soutane n'est pas un habit religieux. Donc on peut très bien comprendre, c'est une petite tradition. Donc si c'est une petite tradition, c'est pas du tout la même chose que l'habit religieux. L'habit religieux repose sur les grandes traditions monastiques communes à toutes les religions. Toutes les religions ont un habit. Ils n'ont pas de soutane. Vous n'avez jamais vu de soutane chez les bouddhistes, hein ? Non, tandis que vous trouvez un habit religieux. C'est très très différent, et ça c'est très important, vous voyez, parce que la soutane n'est pas un habit au sens rigoureux. Donc on comprend très bien qu'on puisse revenir au clergyman qui n'est pas un habit, mais qui demande un petit signe particulier de consécration. Au moment où on a vu cette laïcisation, les religieux auraient dû comprendre, ce qui prouve qu'ils n'ont saisissait plus du tout. Ils ont abandonné leur habit aussi bien que les prêtres séculiers. Ça prouve qu'ils ne comprenaient plus. Je relisais tout à l'heure et je vous le relirai. Parce qu'on parlait de Savonarole. Et dans les méditations de Savonarole, la dernière parole de Savonarole qui est admirable à propos de l'habit. Il dit, je dois quitter cet habit que j'ai porté, qui est sacré. Et je dois le quitter puisque maintenant je suis condamné. Alors il y a ce dernier regard, c'est beau du reste, ça représente quelque chose de grand, cette âme de cet homme si libre. C'est vrai, il y a une liberté dans Savonarole extraordinaire, c'est ça qui séduit. Et de voir que, attaché à la vie, parce que c'est quelque chose qui le lie à Dieu, qui le lie au Christ, et qui dans le monde d'aujourd'hui proclame qu'il est un homme d'éternité. L'habit montre qu'on est au-delà du temps. Il n'y a pas de mode dans l'habit. Il y a l'uniformité, vous voyez, l'unité. Alors, dès que vous quittez l'habit, vous retombez dans la mode. Surtout pour les femmes. Et pour les hommes aussi. Il y a des tissus différents que vous n'avez qu'à regarder hein, quand vous voyez les tissus différents de celui qui appartient. Il a possibilité de se faire un habit bien, de bonne coupure, hein, bon tailleur. Tout de suite, la diversité revient, parce que la diversité, c'est l'individu profane. C'est l'individu corruptible. Ça sent la saveur de la corruption. La mode, hein, toujours, toute mode, hein, sent la saveur de la corruption. Tandis que l'habit, c'est un signe d'éternité. Toute la différence qui existe. Le profane est toujours lié au corruptible. Et l'habit est lié à quelque chose d'éternel. C'est un témoignage d'éternité. Alors vous voyez que la distinction entre sacré et profane est une distinction religieuse. Alors dire que le point de vue chrétien supprime la distinction, selon ces théologiens. Mais le point de vue, ça veut dire que le point de vue de la foi supprime la religion. Ou ça veut dire qu'on est déjà dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura plus de distinction entre le sacré et le profane. Nous ressusciterons avec un corps glorieux qui n'aura plus besoin d'habits. Heureux corps glorieux. Il n'y aura plus de tailleur dans le ciel. Et plus de prise d'habits. La Jérusalem céleste descend du haut du ciel comme une mariée avec un vêtement merveilleux. Il n'y aura plus d'habits. Notre corps sera glorifié et ce sera notre âme qui transformera notre corps. Alors nous serons entièrement sacrés et consacrés d'un amour éternel. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans le devenir. C'est pour ça que la vertu de religion demeure. Et que la foi ne supprime pas la vertu de religion. La grâce ne supprime pas le devenir humain. Et la grâce chrétienne ne supprime pas la distinction du sacré et du profane. Quand les gens disent que la grâce chrétienne supprime le sacré et le profane, ils oublient toute la grâce. Ne supprime pas la distinction du sacré et du profane. Quand les gens disent que la grâce chrétienne supprime le sacré et le profane, ils oublient toute la grande doctrine de l'Église, que tous, il y a en nous, malgré la grâce, les concupiscences. Les concupiscences, ce n'est pas du sacré. Oui, vous pouvez dire sacré concupiscence, ça c'est très vrai, mais c'est pas du tout du sacré. C'est évident, c'est tout à fait autre chose, c'est tout à fait différent. Les concupiscences, c'est le profane. C'est même en dessous du niveau de la mer, donc c'est en dessous du profane humain. C'est le profane bestial. C'est vrai. Ou démoniaque. Donc il y a en nous une distinction entre les deux. Quand vous faites un acte, vous voyez, qui n'est pas un acte de charité, qui n'est pas un acte de foi et d'espérance, quand vous faites un acte tout simplement parce que vous vous laissez attirer par le concupiscible, ou vous vous laissez attirer par l'orgueil, ce n'est pas du sacré. Une colère passionnelle peut être belle, mais elle n'est pas sacrée. Elle est du profane. Ce que Sénèque avait très très bien vu. Parce que c'est vrai, c'est pas du sacré. Donc nous portons en nous, chacun d'entre nous, nous portons du sacré et du profane. Et c'est parce que nous portons du sacré et du profane que Dieu nous demande d'être témoins du sacré. Et c'est ça la Bible. C'est Dieu, c'est le Christ qui nous demande d'être témoins du sacré. Dans un monde qui se laïcise, ou dans un monde qui ne distingue plus entre le sacré et le profane. Et nous maintenons cette distinction. Et par la vie, nous maintenons cette distinction. Nous montrons que par notre vie religieuse, nous sommes des êtres qui voulons être totalement consacrés. Nous savons très bien qu'il y a en nous du profane. Mais nous voulons, nous tendons vers cette consécration totale, parce que nous tendons vers le point de vue d'une vie contemplative qui veut anticiper la gloire. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que l'habit religieux est une anticipation de la gloire. Et c'est pour ça que l'habit religieux, comme tel, est un témoignage eschatologique du retour du Christ et de la gloire. Donc vous voyez, tous ces aspects tendent toujours vers le même aspect, c'est que parce que la foi chrétienne s'incarne à travers la vertu de religion, c'est que la foi chrétienne ne supprime pas l'attitude religieuse, c'est que la foi chrétienne ne supprime pas le devenir, c'est parce que la foi chrétienne sait très bien que tant que nous sommes sur la terre, nous sommes des pécheurs. Et nous pouvons toujours suivre nos concupiscences. Que la distinction du sacré et du profane existe, C'est à cause de ça que l'Église demande de maintenir la vie religieuse. Mais nous comprenons très bien qu'en fonction de certaines erreurs, de certaines idéologies matérialistes ou de certains idéalismes, on tend à supprimer la distinction du sacré et du profane. Et c'est pour ça que la vie religieuse ennuie les gens. Ou au contraire, ils en sont très heureux. On n'est pas indifférent vis-à-vis de la vie religieuse. C'est très très curieux. On n'est pas indifférent. Personne n'est indifférent. Et les gosses encore moins. Et les gosses, c'est toujours très intéressant parce que les gosses ont quelque chose de vrai. Et c'est très curieux de voir un gosse devant un moine. Ils n'en ont pas encore vu, ils croyaient que c'était des détruits. Ils les envoient. Alors, regarde ça avec des grands yeux extraordinaires. Et c'est beau de voir ça, du reste. C'est l'étonnement du gosse. Alors, les grandes personnes n'ont plus d'étonnement, donc leur avis est déjà fait. Comment se dit ? C'est rétro. C'est quelque chose de complètement d'à côté. Ça ne devrait plus exister, ça. Et puis ça existe. Et puis on voit des jeunes avec ça. Quand on voit des vieux avec la bio, c'est normal, parce qu'ils sont de leur temps. Ça disparaîtra avec leur mort. Hein. Mais quand on voit des jeunes avec la bio, ah tiens, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ah, d'où ça vient ? Oh, ils sont des intégristes. Mais non, c'est... Les intégristes, c'est la soutane. Vous voyez, c'est très différent. C'est pas l'habit. Je me souviens, c'était très amusant comme distinction. Je me souviens, c'est très rare que je suis appelé dans des contacts politiques. Mais c'était à un moment donné où on m'avait demandé de faire une conférence sur la liberté au point de vue humain, pour sauver ça. Alors, on m'a demandé, vous irez en quelle tenue ? J'étais en tenue. J'irai dans ma tenue. Alors, ils ont dit, on va réfléchir. Alors, je dis, si vous ne voulez pas que je vienne en dominicain, alors je ne viens pas. Parce que, pour moi, si je viens en tant que dominicain, je ne viens pas en tant qu'homme politique, j'en fais pas de politique. Mais je suis dominicain et je réfléchis sur les problèmes politiques. Ça, c'est vrai. J'y réfléchis. Parce que je sais qu'on doit y réfléchir. Alors au bout d'un certain temps, ils m'ont répondu, après avoir délibéré, si vous portiez la soutane, on aurait dit non. Mais vous portez l'habit religieux, alors on dit oui. C'est très très joli, du reste. Et c'est très vrai, ça. La soutane fait tout de suite dans le monde d'aujourd'hui. C'est un fait, vous voyez, c'est un fait. Je ne légitime pas cela, mais c'est un fait que la soutane, on dira tout de suite, intégriste. L'habit religieux, ah non. C'est autre chose. Et c'est vrai, il faut montrer que le point de vue de l'intégrisme tel qu'il est connu aujourd'hui, c'est différent. Nous portons l'habit parce que nous savons que l'habit monastique, c'est quelque chose qui doit être porté dans notre monde d'aujourd'hui comme témoignage de la résurrection des corps, d'un don total au Seigneur et d'un don total aux hommes. Et nous portons l'habit non pas du tout en sept contrats contre la mode, non pas du tout, c'est pas dans le même genre, donc c'est pas ça du tout, c'est pas du tout en sept contrats contre la mode, c'est tout simplement parce que nous avons le désir de montrer que la grâce chrétienne assume la vertu de religion. Si nous étions, vous voyez, dans cette position théologique, de dire que la grâce chrétienne et la foi n'ont rien à voir avec la religion, alors on ne pourrait pas porter l'habit. Si au contraire je comprends que la grâce chrétienne assume tout l'homme, c'est le levain qui transforme la pâte, alors je peux porter l'habit. Et je peux le justifier. Et toi, fais approcher de toi Aaron. Oui, parce qu'on m'avait demandé de faire la théologie de l'habit. Alors c'est le lieu, hein. Chapitre 28 de l'Exode, hein, n'oubliez pas ça. « Et toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, du milieu des fils d'Israël, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce, l'exercice du sacerdoce, sacerdoce religieux. Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Itamar, les fils d'Aaron. Tu feras pour Aaron, ton frère, des habits sacrés. Il y a une bénédiction des habits. Ils sont sacrés. Du fait même qu'ils sont bénis. Et donc, ils sont pour un usage sacré. Tu feras pour Aaron, ton frère, des habits sacrés qui lui seront une glorieuse parure à la gloire. Mais la beauté et la gloire. L'anticipation de la gloire. Notre corps est corruptible, l'habit religieux n'est pas corruptible. Il est signe de l'incorruption, de l'immortalité et de la résurrection des corps. Ils seront une glorieuse parure. Tout de suite, hein, c'est montré. Des habits sacrés qui lui seront une glorieuse parure. Et toi, tu parleras à tous les hommes habiles que j'ai remplis d'un esprit d'habileté. Et ils feront les habits d'Aaron. On va chercher des couturiers qui ont l'habileté. Alors, il faudrait voir exactement s'il faut traduire habileté ou l'art. J'y reviendrai là-dessus. Parce que c'est intéressant. Parce que savoir si Dieu demande l'habileté. Ou si Dieu demande aux artistes. Intéressant par ça. Tous les artistes sont mobilisés, s'ils sont chrétiens, sont mobilisés pour la résurrection des corps. C'est pour ça qu'il y a un art chrétien qu'on est. S'il n'y avait pas de résurrection des corps, il n'y aurait pas d'art chrétien. C'est parce qu'il y a la résurrection des corps qu'il y a un art chrétien. Et ça commence par l'habit. C'est la petite porte. Hein. La petite porte de l'art chrétien, c'est l'habit. C'est aussi la grande porte, puisque c'est celui qu'on voit le plus. Et les habits sont liés. Il y a des. Vous voyez, comme il y a le style roman, le style gothique, le style rococo, eh bien il y a des habits rococo, il y a des habits style roman, il y a des habits style gothique. C'est très curieux ça. C'est parce que justement, l'art chrétien commence par l'habit. Et c'est donné directement par Dieu. Alors vous allez me dire, non, l'art chrétien commence par l'architecture. Oui, c'est vrai. L'architecture est première. C'est très vrai, l'architecture est première. Mais d'une certaine manière, l'art chrétien va aller jusque-là. Alors, c'est ce qu'il y a d'ultime, ce qu'il y a de dernier. Et par le fait même, on voit bien que l'art chrétien doit impliquer cette plénitude, l'architecture et le point de vue de l'habit. Et ils feront les habits d'Aaron pour qu'il soit consacré et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Les conditions sine qua non pour exercer le sacerdoce. Et quand des prêtres ne veulent plus mettre une aube ou une chasuble, vous voyez, exercer le sacerdoce demande sacerdoce religieux. Alors vous allez dire, sacerdoce chrétien n'est plus la même chose. Oui, sacerdoce d'amour, mais qui implique et qui assume l'attitude religieuse. Pour exercer pour moi le sacerdoce, voici les habits qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, un manteau, une tunique en piqué, un turban, et une ceinture. Ils feront des habits sacrés pour Aaron, ton frère, et pour ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Mais cette répétition constante pour qu'on comprenne, hein, l'exercice du sacerdoce est lié à l'habit. Et l'habit, c'est pour cet exercice du sacerdoce. Pour eux, se procureront l'or, et eux se procureront l'or, la pourpre violette, la pourpre rouge, le cramoisi et le lin fin. Alors, il y a des tissus sacrés et il y a des tissus qui sont profanes. Il faut avoir une sensibilité qui comprenne la différence entre le profane et le sacré. C'est très intéressant, ça, parce que ça montre jusqu'où ça doit aller. L'habit implique nécessairement un tissu. Ça ne peut pas être autrement. Alors, il y a des choses qui sont d'ordre sacré et de choses profanes. C'est pas l'heure. Parce qu'il faut terminer quand même. La messe est à quelle heure? Je crois qu'il vaut mieux arrêter. Non, c'est parce que vous comptez une heure, hein, de cours. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire une heure. Un troisième cours, forcément, sera un peu plus abrégé. Tant pis pour l'habit.